Comme chaque semaine, il nous a semblé normal de donner la parole aux différents cultes religieux, ceux-ci ne pouvant se réunir, et ce, sur les antennes de la French Radio. Nous donnons donc la parole à Raphaël Schneider, membre de la communauté juive de Lisbonne.
Bonjour, merci Thierry Burtin, et merci la French Radio de nous accorder chaque semaine ce temps d'antenne. Je m'appelle Raphaël Schneider, et je suis membre de la communauté juive de Lisbonne. Cette semaine, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission qui porte sur le thème des lois alimentaires du judaïsme, les lois qui définissent ce qui est kasher et ce qui ne l'est pas. Ces lois sont aussi désignées sous le terme de kashrout. Nous avons abordé la semaine dernière, avec mon ami David Gross de Paris, les origines et les principes de ces règles, et il y en a beaucoup. Si vous avez manqué cette émission, ou si vous souhaitez la réécouter, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la French Radio. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'esprit de ces règles et qu'est-ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui encore d'actualité. Je retrouve donc tout de suite mon ami David Gross pour la deuxième partie de notre entretien.
Bonjour David, comment vas-tu cette semaine ?
Je vais très bien, je te remercie. J'espère qu'il en est le même pour tous tes auditeurs et pour toi-même. Je suis content de reprendre le cours de ton émission car le sujet de la semaine dernière était particulièrement aride. Peut-être qu'on pourra effectivement s'intéresser cette semaine à un aspect probablement plus palpitant, qui est celui de la éthique, de l'esprit en réalité de la nourriture cachère, qui va rejoindre beaucoup de préoccupations de notre époque, des préoccupations qui sont partagées à travers la planète par les juifs et les non-juifs.
David, si tu vas bien, je vais bien. On a parlé effectivement de toute la partie plutôt technique de la cacheroute. Maintenant, dans l'esprit. Et je vais tout de suite commencer avec une question un petit peu difficile, mais allons-y. Pourquoi, selon toi, les juifs mangent-ils kasher ?
Écoute, on sait que la science pose la question du comment, et la religion, comme toi à l'instant, s'intéresse plutôt au pourquoi. Et nous trouvons une bonne réponse dans un livre qui s'appelle « Le livre juif du pourquoi » d'un auteur, Alfred Kolach, qui dit que l'observance des lois de la kasheroute a été un facteur unifiant pour le peuple juif à travers les âges, en servant continuellement à rappeler aux juifs leurs racines. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, les lois alimentaires sont établies dans le livre du Lévitique, l'un des cinq livres de la Bible, où une liste d'animaux cachers et non cachers est énumérée. La raison de ces lois n'est pas expliquée par les textes. La Torah, simplement, énonce que ces lois doivent être observées, car il est dit « Je suis l'Éternel, je vous ai tiré du pays d'Égypte pour être l'Éternel votre Dieu et pour que vous soyez saints, parce que je suis saint ». La sainteté est la seule raison donnée dans la Torah pour l'observance des lois alimentaires.
Donc c'est tout ? C'est comme ça ?
Non, attends. Kolach développe le principe de sainteté. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Sainteté, en hébreu, se dit kedusha. Ça provient du mot hébreu kadosh, qui veut dire séparé. Les gens le traduisent improprement par saint, au sens de la sainteté, mais non, ça veut dire séparé. Tout ce qui est saint était quelque chose à part, quelque chose qui devait être mis de côté. Et donc, pour être le peuple saint, Israël devait être placé à part, séparé de ses voisins, qui à l'époque étaient des idolâtres. Les lois alimentaires ont donc été instituées comme un moyen de rendre le mode de vie des Juifs différent de celui de leurs voisins. Il s'est donc agi de préserver les Juifs de la tentation de l'idolâtrie, du retour au paganisme, de l'abandon de la loi de l'Éternel, par une ritualisation très stricte d'un acte essentiel à la vie, manger, et un acte qui se répète trois fois par jour. On peut se souvenir que la Bible contient de nombreux épisodes durant lesquels les Juifs ont failli succomber à la tentation de retourner à l'idolâtrie. On songe par exemple au veau d'or dans le désert pendant l'Exode. On peut penser aussi aux Juifs hellénisés au moment de la révolte.